Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Une nouvelle monnaie va apparaître demain dans le monde. C'est le Naira. C'est la version numérique de la monnaie du Nigeria. Il y a quelques mois, le Yuan a commencé à être lancé par la Chine. Et actuellement, la Banque Centrale Européenne réfléchit à un euro numérique. Alors pourquoi cet engouement ? Qu'est-ce qu'une monnaie numérique apporte à la monnaie nationale ? Quelle différence avec les crypto-monnaies privées comme le Bitcoin ? Sommes-nous à un tournant qui nous emmène lentement vers la fin de la finance traditionnelle ? Quels problèmes tout cela soulève-t-il en termes de sécurité, en termes de collecte de données ? Voilà notre débat ce soir, soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à nos questions, nos trois invités en studio ce soir, Philippe Herlin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et spécialiste des questions monétaires, auteur du livre Bitcoin, comprendre et investir. Face à vous, Adli Takalbataille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes gestionnaire et cofondateur de Shift Capital, qui est un acteur de conseil financier. Vous êtes également président et fondateur du Cercle du Coin et co-auteur de Bitcoin, la monnaie acéphale. Et puis, Nathalie Janson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, spécialiste de la banque libre et de la régulation bancaire, chercheur à la Neoma Business School, qui est une école de commerce et de management. Merci à vous trois d'être ce soir dans le studio du débat du jour. Première question pour que les auditeurs comprennent bien, pour camper le décor, je me tourne vers vous, Philippe Herlin. Qu'est-ce qu'une monnaie numérique ? Quelle différence avec une crypto-monnaie aussi ? Comment on pourrait définir ces termes ? Comment tout ça fonctionne-t-il ?
En fait, toutes les monnaies maintenant sont numériques. L'euro fonctionne, circule essentiellement de façon numérique et les billets ont une part tout à fait infime. La différence entre les monnaies numériques et la spécificité des crypto-monnaies, c'est que, comme le Bitcoin, c'est qu'elles fonctionnent sur une blockchain, c'est-à-dire de façon décentralisée.
Je vous coupe et vous dites que toutes les monnaies sont numériques. Mais par exemple, quand le Nigeria lance son Naira, quand la Chine lance son Yuan, nous, on n'a pas encore l'euro numérique. Proprement dit de la même manière. Quelle différence justement dans ces évolutions-là ?
Oui, là, c'est la différence que ça permet, par exemple, avec un yuan, on pourra envoyer une monnaie directement de son wallet, de son portefeuille, de son smartphone vers une autre personne qui a un smartphone. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas possible, il faut passer par sa banque qui fait l'intermédiaire. Voilà, donc c'est un peu l'innovation que va apporter le Naira ou le yuan. Voilà.
Et donc, la
spécificité du Bitcoin, c'est qu'il fonctionne sur une blockchain, c'est-à-dire de façon décentralisée. Il n'y a pas une banque qui valide les transactions. Les transactions, elles sont validées par la communauté, elles sont publiques, elles sont sur la blockchain et on peut les lire. Alors, on sait que tel numéro de compte envoie telle somme à tel autre numéro de compte. On ne sait pas forcément qui est derrière le numéro de compte. Mais en tout cas, les transactions sont publiques et elles sont validées par la communauté, par les mineurs exactement. Et voilà. Et donc, ça fonctionne sur la base d'un algorithme et personne ne peut prendre le contrôle de Bitcoin. Personne ne peut changer les règles du jeu. On sait que ce sera limité à 21 millions de Bitcoin. On n'y est pas encore, mais ce sera limité.
Il y a une masse monétaire maximale.
On est
maximale.
À 18,7 millions, je crois, en ce moment. Voilà. Mais personne ne peut décider de modifier la règle. Alors que la Banque Centrale Européenne, elle peut décider de modifier les règles et, par exemple, en ce moment, de faire tourner la planche à billets pour acheter la dette des États dont le déficit explose, celui de la France, de l'Italie, de plein de pays. Voilà.
C'est ce qui crée le danger des crypto-monnaies aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas cette banque centrale derrière.
Alors, c'est pas le danger, moi je dirais, c'est plutôt une opportunité.
Alors,
parce
ça va être intéressant. Pour certains, c'est en danger.
Le danger de la Banque Centrale Européenne.
Parce que ça crée de la volatilité.
Oui, mais le danger de la Banque Centrale Européenne, c'est qu'elle est en train de créer de l'inflation parce que la quantité d'euros augmente nettement plus vite que la quantité de biens et services disponibles dans l'économie européenne. Et ça, quand on regarde l'histoire, on sait qu'un euro, ça se transforme en inflation. Et là, l'inflation, on commence à la voir. Alors, on la voyait depuis longtemps dans l'immobilier, dans les actions. Et là, on commence à la voir vraiment dans l'énergie, dans les biens alimentaires, toutes les matières premières, les matériaux de construction. Et ça, ça pose un vrai problème. Avec le Bitcoin, vous êtes protégé contre ça. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Il n'y aura pas de planche à billets dans le Bitcoin. Donc, c'est une façon de vous protéger contre l'inflation, d'acheter du Bitcoin.
Adil Takalbataille, il faut s'affranchir de la banque centrale, c'est ça l'avenir ?
En tout cas, des banques centrales ? La différence aussi entre ces monnaies numériques de banque centrale et des crypto-monnaies, c'est que même l'infrastructure, le code de l'infrastructure, on va dire l'infrastructure technique, n'est pas forcément libre, on ne peut pas forcément y accéder. Donc déjà, on n'est pas à l'abri, entre guillemets, d'une faille ou d'une erreur ou de choses de ce genre. Dans Bitcoin, tout est public. Et après, Moi, je pense que oui, l'avenir se fera en tout cas avec des alternatives aux banques centrales, parce que les banques centrales sont coincées dans un étau, comme le disait Philippe. Dans
cependant, c'est une garantie, parce que, comme le disait Philippe Erlin, justement, la banque centrale ne peut pas faire faillite. On fait fonctionner la planche à billets si besoin.
La banque centrale ne peut pas faire faillite, mais les monnaies, en tout cas, disparaissent très vite. C'est-à-dire que la durée de vie moyenne d'une monnaie, c'est moins de 30 ans. On a l'impression que c'est des choses qui sont immémoriales, etc. Mais il faut jamais oublier que, en cas de faillite, finalement, c'est la disparition monétaire et c'est l'invention d'une nouvelle monnaie qui se passe.
La faillite de la monnaie, c'est l'hyperinflation.
Voilà.
Ouais. Et on l'a vu dans l'histoire.
Il y a eu pas mal d'épisodes.
Nathalie Janson.
Oui, il y a eu pas mal d'épisodes d'hyperinflation. Et notamment aujourd'hui, on a encore des pays comme le Venezuela ou l'Argentine qui sont sous ce coup-là. Et souvent, c'est le dollar qui a pris le relais, mais également le bitcoin, puisqu'on peut voir que dans les pays soumis à des fortes inflations, pour pouvoir sortir les capitaux du pays, comme en Argentine, quand les capitaux sont contrôlés, ben aujourd'hui, en fait, en Argentine, les gens peuvent sortir leurs avoirs en les sortant via le bitcoin, puisqu'ils n'empruntent pas les autoroutes bancaires normales. Donc, en fait, c'est un moyen aussi de protéger ses avoirs.
On peut citer le Salvador.
Le Salvador a fait la une.
Le Salvador et la monnaie, le Bitcoin est devenu monnaie légale au Salvador. Alors il faut savoir que les grandes institutions financières étaient contre, le FMI, la Banque mondiale.
Oui, bien sûr, parce que de toute façon elles n'ont pas, il a été évoqué précédemment, les banques centrales n'ont pas du tout intérêt à ce qu'une monnaie qu'elles ne contrôlent pas devienne plus utilisée, puisqu'aujourd'hui elles utilisent la monnaie pour leur propre fin politique, plus encore aujourd'hui qu'hier. Puisqu'on a passé la période où la monnaie devait accompagner la croissance économique, depuis la crise de 2008, une monnaie qui finance clairement les déficits publics, et encore plus aujourd'hui après le Covid qu'hier. Donc elles n'ont pas intérêt à ce qu'elles émergent, à ce qu'on les laisse émerger. Donc elles ont de toute façon, par rapport, si vous voulez, sur le plan de la concurrence monétaire, elles n'ont pas intérêt, elles ont plutôt intérêt à ce que les personnes s'en méfient plutôt que les laisser accepter. Et donc le Salvador a en effet créé un précédent, bon, qui est un peu ironique, parce que on n'impose pas une monnaie libre. Donc c'est,
mais pour bien
c'est
comprendre,
drôle.
Pour que les auditeurs comprennent, qu'est-ce que ça apporte
alors,
aux habitants
que
du
ça
Salvador
apporte,
d'avoir le bitcoin
voilà. Alors notamment au Salvador, il faut savoir que c'est un pays dollarisé déjà. Donc de toute façon, c'est un pays qui a renoncé à sa souveraineté monétaire il y a fort longtemps, parce que comme il est petit, il y a beaucoup de migrants qui sont partis aux États-Unis et qui envoient de l'argent en fait au Salvador. Donc en début des années 2000, ils se sont dollarisés.
Oui, c'est 20% du PIB du Salvador.
Oui, plus de 20%
qui représente les transferts venus de l'étranger.
Donc pour diminuer les coûts, si vous voulez, de transaction, ils sont passés à la dollarisation. Pas parce que eux, il n'y avait pas d'hyperinflation, mais simplement parce que c'était plus pratique pour eux. C'était trop problématique de gérer les expositions au taux de change. Donc ils ont simplifié. Donc déjà au Salvador, il faut savoir que les gens n'ont pas cette retenue par rapport, ils utilisent le dollar. Et donc il n'y a pas non plus cette problématique de banque centrale, puisque il n'y a pas de politique monétaire. Donc c'est beaucoup plus facile de le faire au Salvador. Et la dernière raison, c'est que du coup il y a une bicirculation, puisque là, le bitcoin a été légalisé au même titre que le dollar. Donc, il y a toujours les deux. Voilà. Et l'avantage non négligeable pour les habitants du Salvador, en tout cas, c'est comme ça qu'il a été présenté, c'est qu'en fait, les résidents du Salvador vont pouvoir recevoir beaucoup plus facilement les fameux transferts que vous évoquiez, pour sans coût, avec des coûts extrêmement minimes par rapport à aujourd'hui, où le marché est fortement monopolisé par Western Union, et où en termes de temps pour aller récupérer les fonds, aujourd'hui ça va plus vite.
Donc à vous écouter, vous répondez à la question du débat. Tout est parfait dans le bitcoin, tout est parfait dans les crypto-monnaies, et il faut jeter les monnaies classiques?
Non, tout n'est pas parfait, mais il ne faut pas les diaboliser non plus.
Alors, quels sont les problèmes?
Alors, le problème, ça reste celui de la fameuse, on parle de niveau d'échelle, de ce qu'on appelle la scalabilité du bitcoin, c'est-à-dire qu'en fait, il ne fait pas de transactions autant que, il ne va pas aussi vite au niveau des transactions effectuées que les monnaies traditionnelles, mais on a des solutions, puisque c'est le Lightning Network aujourd'hui, qui permet en fait, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais en tout cas, ça permet en fait d'être beaucoup plus efficace. On peut faire un nombre illimité de transactions. Donc
ça progresse.
Oui, ça progresse très vite.
Les fins réseaux de paiement progressent.
Finalement, c'est un réseau de paiement comme Colette Visa ou Mastercard, et c'est ce qu'utilise d'ailleurs le Salvador.
Tout à fait.
Donc c'est un réseau de paiement qui se sert, on va dire, de Bitcoin comme base et qui est juste au-dessus de Bitcoin en termes techniques, mais qui permet potentiellement potentiellement d'avoir une bien meilleure mise à l'échelle que Bitcoin, le protocole, le cœur du protocole Bitcoin.
Alors, on parle du. Ouais, Philippe, on parle de Bitcoin, j'ai élargi le sujet.
Si, un autre problème du Bitcoin, c'est la volatilité des cours. Voilà, ça pose un vrai problème quand une monnaie peut gagner ou perdre, quand il peut gagner ou perdre 10 ou 15% dans la journée. Ça pose un problème. Mais ça peut être géré parce qu'il existe des catégories de crypto-monnaies qui s'appellent les stablecoins. Et un stablecoin égale 1 dollar. Et donc là, il n'y a plus de problème de volatilité. Et donc, c'est une autre façon de se protéger. Donc, il faut comprendre, il y a plusieurs types de crypto-monnaies.
Et pourquoi justement vous parlez que du Bitcoin? Parce qu'il y a d'autres crypto-monnaies, il y en a énormément. Il y a les monnaies numériques. Pourquoi est-ce que ça intéresse aujourd'hui les États de développer ces monnaies numériques?
Je pense que pour la Chine, c'est clair. C'est qu'en fait, la Chine n'a pas... sur le plan de la monnaie internationale, elle n'est pas monnaie internationale. Elle représente peu en termes de réserves. Et elle sait très bien qu'elle ne va pas combler son déficit envers les États-Unis du jour au lendemain. Donc pour la Chine, une de ses obsessions, en tout cas, c'est une interprétation, c'est qu'en fait, elle fait un coup sur le marché en fait de la monnaie numérique banque centrale, en se disant, j'ai pas le marché de la monnaie.
Ça, c'est un concept important que vous soulevez, les MNBC.
Oui. Voilà. Donc elle se dit, comme je n'arriverai pas à concurrencer le dollar tel qu'il existe aujourd'hui, par contre, je peux peut-être prendre la main sur cette fameuse monnaie numérique, puisque si je suis le premier arrivé, que je fonctionne bien, finalement, avec les échanges internationaux, je vais donc je vais m'implanter comme première monnaie et je vais peut-être prendre le marché de ces fameuses monnaies numériques. Et c'est à l'issue de la proposition de Facebook en 2019 de lancer Libra qu'en fait elle a accéléré parce qu'elle s'est dit oulala, si Facebook y va et il a un réseau d'utilisateurs importants, il va me prendre la main sur le marché, il faut que je réagisse.
Alors quel avenir ces MNBC, ces monnaies numériques de banque centrale, Philippe Erlin?
Mais ce qui est révélateur aussi, ce qui se passe en Chine, c'est qu'il y a une volonté aussi de contrôle social, c'est-à-dire que en ce moment, ils sont en train de virer les mineurs, même la possibilité de faire des transactions en crypto-monnaie va devenir interdite en Chine. Toutes les fermes de minage qui étaient en Chine, ils les virent. Et donc, ils se débarrassent du Bitcoin parce que le Bitcoin, ça permet quand même de contourner le contrôle des changes qui existe en Chine. Et en imposant les crypto-one, et donc, c'est-à-dire aussi en supprimant les espèces, les billets, les pièces, ça permettra de contrôler la totalité des transactions de tous les Chinois.
De tous les citoyens.
Et donc ça va encore renforcer le crédit social. Et on voit qu'en ce moment, la Chine est en train de vraiment de se durcir. On voit ce qui se passe à Hong Kong. Et donc ça participe de ce mouvement-là.
Ça pose la question de la collecte des données.
Donc le yuan en Chine, c'est quelque chose à observer d'un niveau technologique, mais c'est pas forcément très encourageant au niveau politique et au niveau des libertés.
Ça veut dire, par exemple, l'euro numérique serait complètement différent, même si ça a de commun mot numérique.
L'euro numérique, ça permettrait aussi de suivre les transactions que font les gens. Et si ça s'accompagne de la disparition des espèces, ça voudrait dire qu'on sera tracé. Alors bon, on est dans un régime qui est quand même démocratique par rapport à la Chine, mais c'est toujours inquiétant d'avoir des instruments qui permettent de nous tracer en totalité, parce que on ne sait pas qui peut arriver au pouvoir un jour.
C'est très sociétal, parce que c'est comme on a le développement des QR codes.
Si je peux me permettre, il y a aussi un autre problème, notamment pour l'euro numérique, s'il sort un jour, c'est que ça mettrait les euros de banques qui ont des bilans un peu pourris, on le sait, et les euros centraux. Et donc, cette concurrence-là, finalement, c'est des euros qui ne se valent pas forcément, parce qu'un euro en banque, il est fractionné, un euro central, il n'est pas fractionné. Quand on a un billet, théoriquement, en tout cas, on a de la monnaie centrale, alors que quand on a des sous sur un compte, on a de la monnaie de la banque, et qui, elle, est fractionnée. C'est-à-dire qu'elle n'a qu'une réserve, admettons, de 10% de ce qu'elle met sur les comptes. Donc, finalement, si on a une apparition de ces monnaies-là, ça peut aussi créer un risque si, en tout cas, les banques centrales les poussent comme ça, parce que moi, par exemple, je vais enlever toute mon épargne de ma banque et je vais la mettre en monnaie centrale, clairement. C'est surtout si le support devient intéressant. Parce qu'actuellement, le support du cash n'est pas pratique. Donc, avoir de la monnaie centrale, c'est pas pratique d'en avoir des tonnes. Mais par contre, si demain le support change et que le cash devient numérique, alors là, tout le monde a accès à la monnaie centrale. Alors qu'actuellement, seules les banques et seul le cash permettent.
Donc, clairement, on a un tournant aujourd'hui.
Ben, Mais potentiellement, mais c'est ce qui me fait penser que ça n'arrivera pas, moi, pour le coup.
Alors, c'est pas uniquement l'arrivée des crypto-monnaies, c'est aussi l'arrivée des... Je vous vois sourire, Nathalie Janson. C'est aussi l'arrivée de ces monnaies numériques de banques centrales.
Bah justement, c'est le problème sur lequel elles planchent aujourd'hui, comme il a été évoqué. En fait, elles veulent pas, évidemment, elles veulent pas que leur monnaie, en fait, efface le rôle des banques. Parce qu'effectivement, si vous faites une monnaie qui est que les particuliers pourront détenir, ils auront donc un compte directement à la banque centrale. Ça pose le problème effectivement après de l'existence des banques, puisque la plupart, enfin il y aura forcément un déplacement des comptes des banques commerciales vers les banques centrales, et en plus il faudra qu'elles jouent, elles gèrent tout le back office lié à ces transactions en monnaie numérique, et ça fait beaucoup de choses. Donc les banques centrales sont quand même un peu frileuses. La banque centrale américaine, c'est la plus frileuse de toutes, parce que je pense qu'elle se dit que c'est pas bon, c'est une interprétation personnelle, mais je pense qu'elle se dit que c'est aller trop loin dans la gestion en fait de l'innovation en matière de paiement, et elle a peur en fait de manquer une étape ou de figer les choses, alors qu'en fait c'est en constante évolution aujourd'hui. Et je pense qu'elle pense que c'est trop prématuré. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle était frileuse. La banque centrale américaine y va, mais ça a été la dernière. Elle traîne les pieds. Il y a pas des déclarations comme en Europe, mais aussi parce qu'elle a moins y gagné comparé aux autres. C'est également vrai.
Donc clairement, les crypto-monnaies comme le Bitcoin risquent ou devraient damer le pion à ces monnaies numériques de banque centrale, avec les risques que cela soulève.
Oui, je pense qu'elles sont potentiellement plus. Elles ont potentiellement plus de capacités d'innovation et d'adaptation que celles qui seraient créées par une banque centrale, parce que c'est plus figé quand on a une banque centrale. On va décider d'un protocole, alors que là, comme mes deux collègues ont expliqué, en fait, tout ce monde-là est en permanence, est en constante évolution, parce qu'on n'a pas, on est au début d'une innovation technologique, on n'est pas à la fin.
Ça pourrait même être positif, parce que ça va.
Philippe Erlin.
Les gens vont s'habituer à utiliser un porte-monnaie sur leur smartphone. À s'échanger des dollars ou à s'échanger la monnaie de Facebook. Et puis un jour, ils vont se dire, mais tiens, le Bitcoin, quelle est la différence? Comment ça marche, le Bitcoin? Et donc, ça peut tout à fait démocratiser et populariser le Bitcoin, quoi. Donc, et ça, les banques centrales, elles vont peut-être se faire piéger là-dessus, quoi.
Mais surtout que c'est amusant. Est-ce qu'on peut parier sur un marché mondial ainsi? Parce que, encore une fois, c'est très volatile. Ça paraît presque un coup de pub avec, évidemment, Elon Musk, le patron de Tesla.
Mais la volatilité, on peut dire que c'est une espèce de... Ça peut devenir une monnaie globale complémentaire, en quelque sorte. L'autre chose, c'est qu'on peut se protéger du risque de volatilité. Par exemple, le Salvador le couvre pour ses habitants. Et en fait, c'est assez simple en termes financiers. Il suffit de prendre un contrat dérivé inverse qui permet de couvrir finalement la valeur. Enfin, tous les financiers du monde font ça avec toutes les monnaies depuis longtemps. Et après, on peut aussi penser qu'au bout d'un moment, après avoir passé une certaine phase de croissance, le cours du Bitcoin va aussi se tasser et la volatilité va se réduire. C'est-à-dire que c'est normal qu'au début d'une technologie, il y ait une exponentielle lors de l'adoption en termes de prix. Et c'est pas, ça devrait pas durer ad vitam. Ça, c'est clair et net. Donc, moi, je pense qu'un jour, si Bitcoin, par exemple, atteint une valorisation de l'ordre... par exemple de l'or ou quelque chose comme ça, le prix du Bitcoin va commencer à être, enfin, Bitcoin va devenir moins volatile parce qu'il y aura beaucoup plus d'inertie aussi sur son marché, beaucoup plus de liquidité, etc., etc. Donc la volatilité, c'est le propre d'une innovation et de quelque chose qui est en train d'être adopté. Ça n'a pas vocation nécessairement à durer toujours.
Oui, parce qu'on dit qu'il est entretenu. Donc cette volatilité, évidemment, est accentuée par le fait que l'offre est limitée, comme vous l'avez rappelé, hein, puisque c'est 21 millions. Donc effectivement, mais c'est pas en soi un problème, puisqu'il y a d'autres monnaies qui étaient limitées en quantité, comme l'or, qui n'augmentait pas très très vite non plus. Et c'est pas ça c'est pas pour ça que l'or était volatile. Donc effectivement, comme il a été expliqué, il faut bien se dire que la volatilité du Bitcoin, elle peut aussi s'atténuer. Enfin, de toute façon, elle s'est atténuée. Hein. Si on regarde la volatilité dans le long terme, il y a moins de volatilité aujourd'hui qu'il y en avait au début du Bitcoin, parce que dans un marché qui est très naissant avec très peu d'acteurs, surtout quand il y a des gros acteurs sur le marché du Bitcoin. Forcément, s'il y en a un qui vend ou il y en a un qui achète, bah, tout de suite, ça déséquilibre, si vous voulez. C'est comme si, voilà, il y avait trois acteurs sur le marché immobilier parisien. Effectivement, à chaque fois qu'il y en a un qui vend un immeuble, ça se voit.
Donc voilà, ça permet un peu plus de stabilité. On comprend dans le temps. Est-ce que ça suffit pour ancrer ces crypto-monnaies dans le temps, est-ce qu'il ne faut pas une régulation supplémentaire ? Quel cadre aujourd'hui pour les crypto-monnaies ?
Bah pour Philippe les crypto, quand on achète des crypto-monnaies, quand on va acheter les bitcoins, on crée un compte sur une plateforme d'échange.
On donne son identité.
Et on donne son identité exactement comme on crée un compte bancaire. Hein. Il y a la carte d'identité, un justificatif de domicile. Et on fait un virement SEPA, donc tout est parfaitement tracé. C'est quelque chose de tout à fait transparent et qui se fait dans complète légalité. On peut pas acheter de Bitcoin de façon anonyme.
Il y a des grandes inquiétudes concernant le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent.
Alors ça fait partie des arguments qui sont ressortis régulièrement par ceux qui n'aiment pas le Bitcoin. C'est un genre Christine Lagarde, par les dirigeants de banque centrale qui disent « Ah non, mais le Bitcoin, ça finance le terrorisme, c'est sale, machin ». En fait, c'est faux parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez blanchir de l'argent, en passant par le Bitcoin, vous avez laissé des traces dans la blockchain, justement, des traces ad vitam aeternam même. Et donc, plusieurs années après, on pourra vous retomber dessus. Et de toute façon, sur le Bitcoin, on peut faire des transactions d'un compte à l'autre sans vraiment que ça se voit. Mais dès qu'on va sortir ou rentrer sur le Bitcoin, quand on rentre, on fait un virement bancaire. Donc là, on est identifié. Ou quand on sort et qu'on achète un produit, il y a une adresse. Ou quand on le sort pour transformer en dollars, on va relier un compte bancaire avec un compte Bitcoin. Donc en fait, c'est pas du tout une bonne idée. Et il y a plusieurs études qui ont été faites où on voit que l'argent illicite sur Bitcoin est vraiment extrêmement limité. Il y a juste un peu les rançons qui sont certaines sont payées en Bitcoin, mais autrement, on sait que les trafiquants de drogue ou les trafiquants d'armes n'utilisent pas ça parce que c'est pas possible du tout. Ça laisse beaucoup trop de traces.
En fait, c'est une nouvelle forme par rapport au ransomware, si vous voulez, c'est normal. Du coup, c'est la monnaie du ransomware, puisque c'est par définition c'est dans ce type d'activité. Donc, on va pas demander du cash si on fait du ransomware.
Ni un virement.
Ni un virement.
Adlita Calbataille, en réaction à ce que disait Philippe Erlin, est-ce que vous êtes d'accord ? Et Nathalie Janson, vous avez soulevé ce point-là. Est-ce que finalement les arguments contre les crypto-monnaies contre le Bitcoin aujourd'hui, c'est la finance traditionnelle qui résiste.
Au-delà de la finance traditionnelle, je dirais plus c'est la finance étatique et proche c'est plus une finance politique, on va dire, qu'une finance. Les financiers ont commencé à adopter Bitcoin. Tous les grands fonds d'investissement commencent à acheter du Bitcoin, etc. Donc, j'ai envie de dire. Dans ce niveau à un certain niveau de finance, l'argent a plus d'odeur. En revanche, le contrôle, ça, le pouvoir y tient. Et donc, les banques qui sont très proches des États, ils tiennent également au pouvoir. Et les États ne veulent pas perdre leur souveraineté monétaire.
Est-ce que c'est la fin de la finance traditionnelle?
Pour moi,
elle est déjà terminée, selon vous?
Non, pour moi, c'est peut-être la remise en question de la souveraineté monétaire dans un premier temps et de nouvelles infrastructures et de nouveaux paradigmes finalement financiers qui permettent de faire de nouvelles choses. Après, ça ne veut pas dire que toute la finance va disparaître. Elle peut aussi se remétamorphoser et suivre finalement ce mouvement. Donc pour moi, c'est pas la disparition de la finance traditionnelle, et en plus ça serait un peu trop réducteur de mettre toute la finance dans le même panier, mais en revanche ça vient bousculer les codes financiers habituels et notamment les codes politiques et financiers en disant une politique monétaire, ça peut être une gouvernance décentralisée avec de nombreuses personnes, on peut avoir des monnaies qui sont librement accessibles, qu'on peut pas censurer, sur lesquelles on peut pas avoir de contrôle externe, et qui du coup devient vraiment un outil finalement public et ouvert et libre, sans pour autant que ce soit problématique, parce que qu'on le veuille ou non, Bitcoin ça marche. C'est ça qui fait le plus mal en fait à tous les critiques de Bitcoin, c'est que Bitcoin devait mourir plein de fois, mais ça marche.
Et vous avez écrit dans un article que le Bitcoin était avant tout un projet politique et sociétal.
Oui. Ah ben clairement, parce que Bitcoin vient, pour moi le white paper de Bitcoin, donc le papier original de Bitcoin, c'est presque un manifeste politique dans le sens où ça vient remettre en cause la souveraineté monétaire, et c'est redonner un pouvoir d'auto-souveraineté monétaire finalement en quelque sorte.
Ah oui, clairement ça s'inscrit, alors sans doute que ça a été pensé avant, mais le timing au niveau de sa sortie, ça correspond à la crise de 2008, et c'est de dire, écoutez, le système dans lequel on vit en fait ne peut plus être gouverné de façon pyramidale, c'est-à-dire que la complexité du système financier est telle aujourd'hui que penser qu'une banque centrale et des autorités bancaires puissent le réguler, C'est pas vrai. Donc, faut passer à autre chose. Faut passer à une réorganisation. Et c'est pour ça que, effectivement, c'est décentralisé. Parce que, franchement, c'est très clair. C'est l'idée qu'il faut arrêter le système dans lequel on est parce qu'il n'est pas contrôlable. Et donc, il faut repenser ce système pour qu'il soit, comme il est très complexe, il faut le décentraliser pour accroître l'efficacité de son contrôle.
Mais alors, on tente d'encadrer les GAFA. Est-ce qu'il faut pas s'inquiéter de voir les moyens de paiement numérique se retrouver entre les mains de gros acteurs de la technologie, le fait qu'on puisse payer déjà avec des applications mobiles, Google, Apple?
Mais en fait, on a des applications qui sont... Berlin. On est dans le domaine de l'open source avec le Bitcoin. Personne ne peut acheter le Bitcoin et en faire sa propriété. Et Google ne peut pas mettre la main sur Bitcoin. Voilà. Donc ça, c'est une première sécurité. Et puis, on est dans le domaine de l'open source. N'importe qui peut créer un porte-monnaie qui permette d'échanger du Bitcoin. Il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas d'interdiction possible. Voilà. Donc, on est dans un système ouvert, c'est une base. On peut dire Bitcoin, c'est un peu l'Internet de la monnaie. C'est l'Internet qui permet d'échanger de la valeur. Voilà. Et donc, et là-dessus, on peut construire tout un tas de services. Alors, il y a aussi Ethereum, il y a d'autres crypto-monnaies. On peut construire d'autres services. Mais on est dans des processus qui sont ouverts. On ne peut pas devenir propriétaire et le fermer. Si et ensuite, rentrer dans un système de rente comme le font les GAFA aujourd'hui.
Si je peux donner un exemple justement qui est sur les GAFA. Par exemple, Apple veut lancer un nouveau service, va décider de supprimer telle app ou telle app de l'App Store. Ou de mettre des bâtons dans les roues de certains développeurs ou de certaines applications. Et ça, c'est scandaleux justement. Ça ne pourrait pas apparaître sur Bitcoin. On ne pourrait pas supprimer une application qui utilise Bitcoin ou qui utilise Ethereum ou n'importe quel autre protocole à consensus décentralisé qui permet ce genre d'échange. Donc en fait, on rend le pouvoir à ceux qui vont créer des applications et permettre des usages sans pour autant pouvoir leur enlever. Et c'est ça qui change tout finalement. C'est-à-dire que là où les GAFAM ont finalement un droit de vie ou de mort sur tout ce qui se passe sur leur réseau, les réseaux comme Bitcoin ou Ethereum sont totalement ouverts. Donc finalement, chacun peut créer dessus et c'est l'usage qui va primer avant tout. Un peu comme le langage.
Et cette volatilité que vous avez évoquée, on arrive bientôt vers la fin de l'émission, c'est intéressant de la résumer. On a dit les principales critiques pour le Bitcoin. Alors encore une fois, on cite le Bitcoin parce que c'est la première crypto-monnaie. Et là, vous écoutez beaucoup d'avenir. C'est la volatilité. Est-ce que vous dites qu'avec les années qui viennent, ce sera possible de l'encadrer, Nathalie Janson ?
L'encadrer, pas vraiment l'encadrer, mais en tout cas, elle va se stabiliser. C'est-à-dire que là déjà, il y a eu, comme il était expliqué avant, on a eu la naissance des marchés dérivés. Donc quand il y a des risques, en fait, il y a des marchés financiers qui vont gérer en fait ces risques, on les appelle les marchés dérivés. Donc le fait même qu'ils existent en fait va contribuer à diminuer la volatilité. Donc au fur et à mesure, effectivement, elle va diminuer. On va arriver aux 21 millions de toute façon. Et puis effectivement, si l'usage se démocratise, c'est-à-dire si on a beaucoup plus d'acteurs qui achètent et qui vendent naturellement, puisqu'en fait, pour que le prix en fait soit assez stable, il faut qu'en fait il y ait des ventes et des achats naturels en permanence. Donc évidemment, plus il y a d'utilisateurs et plus il y a de gens qui vendent et qui achètent, et plus on va donc arriver à une volatilité plus faible.
Il y a le risque que le marché soit bouché parce que le plafonnement serait atteint.
Non, parce que on peut diviser à l'infini, entre guillemets. Oui. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des zéros après la virgule. On peut subdiviser Bitcoin autant qu'on veut. Là, pour l'instant, il a 8 zéros après la virgule. Mais, et d'ailleurs, on devrait utiliser cette unité de compte plutôt que le Bitcoin. Mmh. Ça parlerait peut-être plus aux gens parce que là, c'est 42 000, ça fait vraiment un actif. Alors que si on compte en Satoshi, donc 8 zéros après la virgule, on serait plus à quelque chose comme peut-être 0,4 centimes ou quelque chose comme ça, en tout cas, pour le Bitcoin. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus palpable, finalement, par rapport à l'heure actuelle. Et donc, il n'y aurait pas forcément de problème. C'est-à-dire que s'il y a de la valeur qui est créée, elle se reflétera dans Bitcoin. Si le monde prend de la valeur, Bitcoin prendra de la valeur si tout le monde l'utilise. Donc, un Bitcoin coûtera un peu plus cher et des gens auront une fraction un peu plus petite, c'est tout.
Philippe Erlin, pour conclure rapidement, clairement, et encore une fois, je veux résumer un petit peu ce qu'on s'est dit pendant 30 minutes, on appelait ça les monnaies numériques de banque centrale, n'ont pas leur...
C'est pas eux qui vont changer la donne. Ils font la course derrière le Bitcoin et derrière la monnaie de Facebook pour pas se faire distancer, pour pas être ingardisé. Mais c'est pas eux qui font changer la donne. Et ce qui change la donne, c'est pas non plus Facebook. C'est Bitcoin et ensuite les autres crypto-monnaies qui sont créées derrière. Et elles sont en train de changer. Et c'est pas unique. Il faut pas voir le Bitcoin uniquement d'un point de vue spéculatif. J'achète, je gagne de l'argent. Ça se résume pas à ça. C'est que c'est en train de créer une nouvelle économie. On parle de finances décentralisées. et qui viennent concurrencer la finance centralisée, la finance actuelle. Il y a des nouveaux services, on peut emprunter de l'argent, on peut stocker de l'argent et toucher des taux d'intérêt, mais de façon plus intéressante que la finance classe traditionnelle.
Et ben voilà, je voulais vous entendre dire ça pour le mot de la fin. Je trouve que ça résume très bien tout ce qu'on s'est dit dans ce débat du jour. Merci Philippe Erlin, économiste spécialiste des questions monétaires. Merci Adlita Kalbataï, gestionnaire cofondateur de Shift Capital, président fondateur du cercle du Coin. Et merci à vous Nathalie Janson, économiste spécialiste de la banque libre et de la régulation bancaire, chercheur à la Neoma Business School. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat. La région Normandie.